je sais pas si vous voulez, on l'allume déjà maintenant.
Ouais, vous pouvez.
Et là, les quantiques qui sont là.
Il y a les réponses dedans.
Mais est-ce qu'il y a bien, oui, il y a bien celui de la passion.
Voilà.
Là, c'est le quantique. Et là, si vous voulez, il y a l'ordre du culte, mais peut-être ça va vous
non,
gêner.
Bon, non,
ça
vous
va
vous gêner. Je
le mets en dessous.
Il y a une bague, ouais, comme ça, je
voilà.
Mais
il est là. Oui. Bon, vous avez raison. Thank you.
Voici venu le temps de reposer nos vies dans sa parole, le temps de donner de l'espace à notre prière. Voici venir le temps d'accueillir sa présence qui nous bénit, qui nous réunit. Que la paix de Dieu Père, Fils et Souffle Saint soit avec nous tous et qu'elle nous achemine vers la joie, cette joie qui est au-dessus de toute joie. Je voudrais souhaiter la bienvenue à chacune et à chacun pour ce temps de culte, que vous veniez pour la première fois ou que vous veniez régulièrement, que vous soyez plein de certitudes ou bien en recherche ou juste curieux, soyez ici chez vous, dans cette maison, où ce matin nous sommes rassemblés pour nous ouvrir à la présence de Dieu. Bienvenue aussi à celles et ceux qui nous rejoignent par le biais du site internet ou ceux et celles et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Bienvenue aussi à Aurélien Peter qui nous accompagne ce matin à l'orgue, sans qui ce culte aurait un gros manque. Et je vous invite à vous lever pour chanter le premier réponse. Seigneur, que tous s'unissent. Et nous louons Dieu avec ce magnifique psaume qui clôture le livre des psaumes. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son saint lieu, louez-le dans l'étendue céleste où se déploie sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le avec la sonnerie du cor, louez-le avec le luth, avec la harpe, louez-le avec le tambourin, et avec des danses. Amen. Et je vous invite à continuer à louer Dieu en chantant le psaume 92 dans le psautier français. Et nous chanterons les trois premières strophes.
Thank you.
Et vous pouvez vous asseoir. Nous écoutons maintenant ce que Dieu souhaite pour nous et nous donne la force de faire cette loi qui est là pour nous libérer. Et c'est ainsi que Jésus résume toute la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence, de toute ta force. C'est là le commandement le plus grand, le plus important. Et voici le second commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Amen. Et mon Dieu, cette loi que tu nous offres pour nous libérer, nous aimerions tant y répondre. Malheureusement, bien souvent, nous nous en éloignons et nous nous éloignons de toi. Mais nous sommes assurés de ton amour que tu as manifesté en Jésus-Christ. Aussi, nous pouvons déposer devant toi notre péché. Et nous prions avec ces belles paroles de Missak Manouchian. Universelle, insondable, ineffable puissance, Dieu immuable, donne la lumière à mon âme sombre et affligée. Donne l'harmonie au chaos de mon esprit. Des forces aveugles en moi me déchirent comme des bêtes sauvages et affamées. Quand descend lentement le poison des heures sur les cordes agitées de mon cœur. Voilà que je suis seule dans la nuit muette. Les étoiles innombrables, la lune pure, ne me racontent plus les légendes dorées. Le secret du zéphyr, ah, je l'ai oublié, Seigneur. Toutes les passions errantes du monde assiègent continuellement tout mon être, persécuté par la vie, privé de foi, en tout lieu, je te cherche, mon Dieu. Et je veux redevenir un enfant d'un cœur pur avec toi, communier de nouveau, t'adorer pour toujours. Lave mes péchés avec tes flammes inextinguibles, inextinguibles. Quand ton amour se répand sans cesse au plus profond de mon âme. Amen. Le Seigneur t'arrache à la nuit, d'une vie pour rien, il t'offre un lendemain, ouvre-toi à son pardon. Il t'offrira les gestes féconds et sa présence à tes côtés, son pain à partager. Et puisque l'amour de Dieu, son pardon, sa grâce nous relève dans nos existences, je vous invite à vous lever pour chanter notre reconnaissance. Et nous restons debout pour confesser notre foi chrétienne. Je crois en un seul Dieu, notre Père, le Créateur. Il a pour chacune et pour chacun de nous des projets de vie, des projets de joie. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Frère, qui est Fils de l'homme et qui est Fils de Dieu. Il vient à nous, il nous aime, il nous sauve. Je crois en l'Esprit Saint, qui nous est laissé comme un don gratuit. Il appelle la foi, il fonde l'espérance véritable. Je crois que, par l'amour, notre existence touche à la vie éternelle et qu'en Dieu, nous demeurons dans la liberté et dans la joie. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et je vous propose pour ce dimanche du temps de la Passion de réfléchir à partir d'une question: qui a tué Jésus ? On fera une sorte d'enquête. Alors, je vous propose comme texte biblique dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 22, à partir du verset 66, puis ensuite dans le chapitre 23. Quand il fit jour, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et firent amener Jésus devant leur Sanhédrin. Ils dirent: « Si tu es Christ, dis-le-nous. » Jésus répondit: « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Tous dirent: « Tu es donc le Fils de Dieu ? » Il leur répondit: « Vous le dites, je le suis. » Alors ils dirent: « Qu'avons-nous encore besoin de témoignage ? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. » Ils se levèrent tous ensemble et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser en disant: « Nous avons trouvé celui-ci qui incitait notre nation à la révolte, empêchait de payer l'impôt à César et se disait lui-même Christ, roi. Pilate l'interrogea en ces termes : « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit : « Tu le dis. » Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule : « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Mais ils insistèrent et ils dirent : « Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée, depuis la Galilée, où il a commencé jusqu'ici. » Quand Pilate entendit cela, il demanda si cet homme était galiléen. Ayant appris qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il eut une grande joie, car depuis quelque temps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait lui voir faire quelques miracles. Il l'interrogea assez longuement, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs, les scribes étaient là et l'accusaient avec véhémence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pilate convoqua les principaux sacrificateurs, les chefs et le peuple et leur dit : « Vous m'avez amené cet homme comme entraînant le peuple à la révolte ? Voici, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des fautes dont vous l'accusez. » Hérode non plus, car il l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait châtier. » À chaque fête, il était obligé de relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble : « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. » Ce dernier avait été mis en prison pour une émeute qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur adressa de nouveau la parole avec l'intention de relâcher Jésus. Mais ils criaient : « Crucifie-le ! Crucifie-le ! » Pilate leur dit pour la troisième fois : « Mais quel mal a-t-il fait ? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait châtier. » Mais ils insistèrent à grands cris en demandant qu'il soit crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Pilate rendit un arrêt conforme à leur demande. Il relâcha celui qui avait été jeté en prison pour une émeute et pour un meurtre et qu'il réclamait. Mais il livra Jésus à leur volonté. Et dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, les versets 22 à 25. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Amen. Et nous chanterons maintenant le cantique 193, et je vous invite à vous lever pour chanter les trois premières strophes du cantique 193. Nous prions. Dieu notre Père, fais-nous oublier les mots usés. Arrache-nous aux phrases creuses. Donne-nous une parole d'être humain. Une parole qui sache répondre. Une parole qui sache interroger. Donne-nous une parole de vie, modelée par la parole de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, qui a tué Jésus ? Je ne sais pas si vous avez bien écouté la lecture de ce passage de l'évangile de Luc. On retrouve à peu près les mêmes choses dans les autres évangiles. Et il y a plusieurs protagonistes, semble-t-il. Cette question m'a paru finalement assez pertinente, parce que la Bible ne cesse de nous questionner. Alors certes, ce n'est pas le Cluedo, mais enfin, elle n'a de cesse de nous questionner. Et d'ailleurs, dans ce passage, Jésus ne répond à aucune question, comme d'habitude. Et au contraire, parfois, tout au long de l'évangile, quand on lui pose une question, soit il se tait, soit il répond par une question. Donc en fait, on a, je pense, nous sommes incités justement à nous questionner. Donc qui a tué Jésus ? Bon, la tradition nous a habitués à nous offrir à des réponses toutes faites. Mais en réalité, la lecture attentive des textes vient remettre en cause bien des interprétations habituelles sur la mort de Jésus, les causes de la mort de Jésus. Et puis, il faut le reconnaître, certaines réponses ont quand même servi à justifier les pires crimes. Parce que la première réponse a été longtemps, c'est les Juifs qui ont tué Jésus. Alors, on va explorer un peu cette piste déjà en premier. Première hypothèse, les Juifs sont-ils responsables de la mort de Jésus ? Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Déjà, les Juifs dans leur ensemble, qu'est-ce que c'est à l'époque de Jésus ? Et puis, on l'a bien entendu, ce sont bien plus les autorités religieuses du temple de Jérusalem qui vont accuser Jésus, chercher à le faire arrêter, l'emmener chez Pilate. En réalité, les Juifs, il y en a de nombreux qui vont suivre Jésus, qui vont l'accompagner jusqu'à la mort, parce que on nous dit la foule, vous savez, la foule au temps le jour des rameaux qui l'acclame et la foule qui lui demande de le crucifier quelques jours après. Est-ce les mêmes dans la foule ? Rien ne nous le dit, rien ne nous fait penser cela. Donc en fait, je pense que nous pouvons balayer cette réponse en disant non, ce ne sont pas les Juifs qui ont tué Jésus. Alors, quand même, il faut reconnaître que les autorités religieuses de Jérusalem, eh bien, sont assez responsables. Certes, elles n'avaient pas la possibilité de mettre à mort Jésus, puisqu'elles étaient sous domination de l'Empire romain, elles vont l'emmener chez Pilate. Mais en réalité, si ces autorités juives, ces scribes, ces pharisiens, ce Sanhédrin, le grand prêtre, n'avaient pas voulu chercher Jésus, l'arrêter et l'amener devant Pilate, eh bien, Jésus n'aurait pas été mis à mort. Et je pense que nous pouvons avoir ça dans l'esprit. Certes, ils ne, ce ne sont pas eux qui mettent Jésus à mort, mais ils ont quand même une grande responsabilité dans cela. Quelque part, ils sont peut-être obligés de le faire, ils se déchargent de cette responsabilité, mais il y a une telle insistance. Ensuite, les Romains, avec Pilate évidemment. Pilate, vous l'avez entendu, essaie par tous les moyens d'épargner Jésus. Il veut relâcher Barabbas, il ne voit rien de mal en lui. Quand il apprend qu'il est galiléen, il l'envoie chez Hérode. Hérode n'en veut pas, il le renvoie. Donc on voit bien que Pilate cherche par tous les moyens pour le relâcher. Il le dit d'ailleurs, et il le montre par un geste. Alors ce n'est pas dans l'évangile de Luc, c'est dans l'évangile de Matthieu, par ce geste si symbolique, qui dit qu'il se lave les mains et puis il dit « Je suis innocent du sang de cet homme ». Ça, c'est Pilate. Mais en réalité, Pilate, certainement par peur de l'émeute ou je ne sais quoi, c'est tout de même lui qui emmène Jésus, qui condamne Jésus à mort. Donc, Pilate n'est pas complètement innocent non plus. La foule, cette foule qui est là et qui hurle « Crucifie-le !» cette foule aussi n'est pas complètement innocente. Pourtant, dans la foule, je suis sûre, chacun ne pense pas être coupable de cela. Mais c'est l'ensemble de cette foule, ce mouvement de foule, de masse, qui devient quelque chose d'horrible, quelque chose qui fait que Jésus va être mis à mort. Nous pouvons toujours encore aujourd'hui nous méfier de ces mouvements de masse. Enfin, il y en a qui sont absents là-dedans, dans notre histoire. C'est les disciples. Les disciples, eh bien, qui ont abandonné le navire. Pierre en premier, ce qui en est la plus belle illustration. Lui qui est tout feu, tout flamme, qui dit à Jésus, « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi jusqu'en prison, jusqu'à la mort. » Et qui, quelques heures à peine après, eh bien, va abandonner, renier Jésus par trois fois. Pourtant, Jésus l'avait prévenu. Il lui a dit, « Le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu m'auras renié trois fois. » Eh bien, nous pouvons entendre aussi que ces silences nous rendent responsables. D'ailleurs, c'est Elie Wiesel qui dit lors de son discours, lors de la remise du prix Nobel de la paix à Oslo, dit « La neutralité aide l'oppresseur, jamais la victime. Le silence encourage le persécuteur, jamais le persécuté. » Et puis il y a enfin ce protagoniste que tout le monde connaît et qui serait là pour trahir Jésus, c'est Judas. Judas. Alors c'est un personnage très complexe, Judas, qui me pose plein de problèmes. Je n'ai pas la réponse d'ailleurs à toutes les questions. Mais est-ce que Judas a trahi? Peut-être, mais en tout cas, le verbe trahir n'est jamais prononcé dans aucun des évangiles. On nous dit que Judas livre Jésus. Alors une des interprétations qui me parle beaucoup, c'est qu'en fait Judas... Eh bien, pense que Jésus se trompe. Il attendait un Messie triomphant, un Messie plein de pouvoir, un peu comme Hérode, là, qui avait envie qu'il fasse des miracles. Et puis, voilà que Jésus se présente de manière tout à fait différente. Là, au moment où on l'arrête, eh bien, il ne va pas se défendre. Il ne dit rien, ou alors il répond à côté. Il ne cherche pas à s'extirper de tout cela. Et Judas, en fait, peut-être qu'il le livre aux autorités religieuses en disant « Bon, ils vont le remettre dans le droit chemin parce qu'il s'est un peu égaré. Il devrait, je ne sais pas, nous délivrer des Romains. » Alors qu'en réalité, Jésus vient les délivrer d'eux-mêmes, vient les délivrer de leurs péchés, vient les délivrer de leur culpabilité. Donc en fait, je ne sais pas vraiment ce qui anime Judas. Nous ne le savons pas. Et c'est bien qu'il y ait plusieurs interprétations là-dessus aussi. Mais je trouve que cette part de Judas me parle pas mal. Mais j'ai une question avant de continuer sur Judas. En réalité, je me suis toujours interrogée, pourquoi y a-t-il Judas ? En réalité, tout le monde sait où est Jésus. Jésus, d'ailleurs, lui-même le fait remarquer un peu avant dans l'évangile de Luc. « J'étais avec vous au moment de son arrestation. J'étais avec vous tous les jours dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. » En effet, Jésus était là. Tout le monde savait où il était. Pourquoi faut-il que Judas vienne l'embrasser pour qu'on sache qui est Jésus et qu'on puisse l'arrêter à ce moment-là? Judas n'est pas très utile, en fait, en réalité. Alors pourquoi? Pourquoi cette insistance sur Judas? Eh bien, peut-être que cette personne de Judas est là pour nous interpeller, pour nous mettre face à nous-mêmes. Ce Judas qui a une image figée de Jésus, qui l'enferme dans ses attentes au lieu de se laisser surprendre par la bonne nouvelle, par l'inattendu de son évangile, par cet homme qui vient tout bousculer, qui vient nous bousculer nous aussi en premier. Bien trop souvent, nous nous enfermons et nous enfermons aussi Dieu dans nos images, dans nos dogmes, dans nos discours, dans nos vérités, dans nos soi-disant vérités. Et ce qui est vrai pour Judas l'est aussi pour les autres coupables. Nous sommes tous un peu de Judas, peut-être, par moments, et puis on n'est peut-être pas tous ensemble. Hein. Nous sommes aussi un peu de chacun des autres protagonistes, un peu de ces autorités du temple, ces autorités qui n'acceptent pas qu'on vienne les remettre en cause à aucun moment, que leur autorité soit bafouée. Nous sommes aussi un peu de cette foule qui vocifère, certainement aussi un peu comme les Romains qui veulent dominer les autres, qui veulent les dominer, les asseoir et faire que les autres soient petits, écrasés. Parfois, ça nous arrive aussi. Et nous sommes surtout, très souvent, comme les disciples, dont le silence laisse faire les nommables. Mais ce qui les réunit tous, et c'est ça qui m'est apparu en lecture de ce texte, c'est qu'ils refusent leurs responsabilités. Qu'ils ne veulent pas ni être responsables, ni être coupables dans la mort de Jésus. Les autorités juives, eh bien, qui livrent Jésus à Pilate, mais comme je l'ai dit, sans eux, rien ne serait arrivé. Pilate qui se lave les mains, et puis les disciples, on est un peu comme eux, on se tait face au mal qu'il y a dans notre monde, dans notre univers. Et nous sommes un peu de tout cela. Par lâcheté, nous refusons d'admettre nos responsabilités. Ils ont refusé d'admettre leurs responsabilités. Et ça m'a renvoyé, en fait, à un autre épisode. Un épisode bien connu, un épisode qui est pratiquement en ouverture de la Bible, lorsque l'homme et la femme se retrouvent dans ce jardin. Alors, on nous dit souvent que le péché originel, c'est parce qu'ils ont croqué dans le fruit. Moi, je pense que c'est peut-être pas le péché originel, je pense qu'il y en a plus d'ailleurs dans ce récit. Mais une des fautes graves, c'est qu'ils refusent leur responsabilité. Ils sont d'une lâcheté. L'homme qui dit « c'est pas moi, c'est elle ». Et puis la femme qui dit « c'est pas moi, c'est le serpent ». Alors là, vraiment, quelle nullité. On a l'impression de se retrouver dans une cour de récréation de maternelle. Alors ce qu'on peut pardonner à un enfant de 3 ans, eh bien c'est quand même, lorsqu'on est adulte, nous sommes quand même invités à affronter nos responsabilités, à reconnaître nos fautes. On ne le fait pas toujours, hein. Voilà. Je ne veux pas donner de leçons, c'est quand même très compliqué. Entre ce qu'on devrait faire et ce qu'on fait, il y a tout un monde. Hein. Mais je trouve que ces textes, quand même, ils sont là pour nous remettre face à ça. Parce que, certes, il y a eu un moment historique de la mort de Jésus. Oui, il a été crucifié en l'an 33, mettons. Parce que sur les dates, ce n'est pas très important. Mais en tout cas, ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est que Christ est vivant encore aujourd'hui. Donc on peut s'interroger, à quel moment, moi, je crucifie encore le Christ? À quel moment je le tue? Là, à quel moment fait que, à nouveau, il est mis à mort? Bon, je trouve quelques réponses dans l'évangile de Matthieu, dans ce jugement des nations, lorsque Jésus dit à chaque fois que vous ne faites pas cela pour le plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous ne le faites pas. Lorsqu'on ne visite pas les malades, lorsqu'on ne prend pas soin des prisonniers, lorsqu'on ne prend pas soin en fait des petits, lorsqu'on refuse ou lorsqu'on fait du mal de manière positive, c'est pas, eh bien aussi aux autres, eh bien nous pouvons nous à nouveau, nous mettons le Christ à mort. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, quand même, et C'est pour ça que peut-être nous sommes invités à ne pas avoir peur, à prendre nos responsabilités. C'est que la bonne nouvelle du Christ, ce n'est pas sa mort et sa mise à mort. Sa bonne nouvelle, c'est tout le message d'amour qu'il nous a donné avant. Ce message de la grâce de Dieu, c'est-à-dire que oui, on est humain, on n'est pas parfait. Mais malgré tout et contre tout, Dieu nous aime, Dieu nous sauve, Dieu nous relève et nous permet d'avancer de nouveau dans notre existence, alors même que nous avons commis des erreurs. Il nous invite non pas à faire comme tous ces protagonistes, à nous cacher, à avoir peur de lui, comme l'homme et la femme qui se cachent au moment où Dieu arrive et leur dit « vous avez peut-être croqué dans le fruit défendu ». Mais non, ils se cachent. Eh bien, avoir peur de Dieu et ne pas prendre nos responsabilités, alors que tout l'Évangile, toute la Bible, je dirais même, et le message du Christ, c'est de nous dire « Dieu t'aime, n'aie pas peur, ne crains point ». Il paraît que ce « ne crains pas » ou « ne crains point » revient 365 fois ou 66 dans la Bible, c'est-à-dire qu'il y en a un par jour. Donc chaque jour, vous pouvez entendre Dieu qui nous dit « n'aie pas peur, ne crains pas ». Donc, voilà, nous voilà face à nos responsabilités. Et ce message d'amour, ce message de grâce que le Christ nous a apporté, ce message d'amour de Dieu, eh bien, fait que la dernière hypothèse, celle que j'ai peut-être effleurée, non, je n'ai pas effleuré en fait, c'est que lorsqu'on dit que Judas finalement, pour sauver Judas, il a fait ce que Dieu souhaitait, c'est-à-dire qu'il a permis que l'on mette le Christ à mort. Cette hypothèse qui pour moi est effroyable, d'un Dieu qui sacrifierait son Fils, et sacrifierait son Fils pourquoi ? Pour qu'on soit tous lavés de nos péchés. Alors je ne sais pas, en plus laver de nos péchés, cette interprétation sacrificielle m'effraie au plus haut point. D'abord parce qu'elle nous dédouane, c'est-à-dire que maintenant Christ est mort, eh ben on est lavé pour les péchés de tout temps. Moi, je pense que la grâce à deux balles, c'est pas terrible quand même. En fait, oui, le pardon est là, mais faut peut-être quand même qu'on fasse un effort et qu'on reconnaisse nos torts. Le pardon est là, il nous est assuré, mais il est déjà assuré avant, il n'y a pas besoin. Le Christ, s'il meurt, c'est parce que lui, il accepte d'aller jusqu'au bout de son message. Et c'est quand même étonnant, c'est qu'un message plein d'amour, plein de bienveillance, conduit à la mort. Et c'est vrai, et ça m'interroge, et ça nous interroge, aimer, c'est pas se faire aimer. Aimer, c'est parfois se faire détester. Aimer, c'est parfois dire quelque chose qui va déplaire à l'autre et qui va le mettre en rogne. Pas toujours, hein. Aimer, ça peut être aussi bon, agréable. Mais aimer, c'est aussi être capable, eh bien, de se remettre en question et d'inviter l'autre à se remettre en question aussi. Et on voit où ça a conduit le Christ. Mais cette théologie sacrificielle, moi, elle ne me va pas du tout. Certains disent, oui, c'est bien beau tout ça, mais dans les évangiles, il y a quelques termes, quelque chose qui parle de sacrifice. L'agneau de Dieu, enfin des choses comme ça. Mais en réalité, si on fait très attention, dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs types de sacrifices. Il y a en effet le sacrifice expiatoire, où l'on immole une bête pour, eh bien, pour le pardon des péchés de toute la communauté. Ou alors, la théorie du bouc émissaire, on l'envoie dans le désert, où il va mourir aussi, et pour que tout le mal et toute la faute partent. Mais il y a aussi des sacrifices de communion. Et je pense que, d'ailleurs, ce repas pascal, tout, on est dans la communion, dans cette communion aussi que le Christ nous a offert à travers ce repas de la scène. On est dans la communion, il y a des sacrifices de communion. Et je pense que ce langage sacrificiel s'applique beaucoup plus, s'applique d'ailleurs uniquement à ce sacrifice de communion où nous sommes invités à nous mettre en communion les uns avec les autres, où nous sommes invités à donner la main à nos frères, à nos sœurs, à partager, à accepter, eh bien, nos différences, à accepter l'autre tel qu'il est, même lorsque cela nous déplaît. Eh bien, Dieu nous invite, nous aussi, à aimer. Son amour nous invite à aimer et à nous mettre en communion les uns avec les autres. C'est-à-dire, toute la symbolique de la scène, c'est-à-dire que l'amour de Dieu nous permet de nous mettre en cercle, comme on va se mettre tout à l'heure, et nous permet aussi ainsi d'être en communion les uns avec les autres. Alors oui, la mort du Christ est quelque chose d'effroyable et d'ailleurs et d'incompréhensible, et pourtant pour nous, derrière cette mort, il y a la résurrection. Jésus, lorsqu'il annonce sa mort, annonce aussi toujours sa résurrection. Alors c'est vrai que le corps du crucifié peut être une folie qui ne rentre pas dans un système rationnel. Le corps du crucifié est un scandale qui met en échec toutes nos représentations de Dieu, toutes ces représentations traditionnelles que nous avons, justement celle d'un Dieu archaïque, celle du Dieu du serpent qui dit « tu vas, il est jaloux, il veut tous les pouvoirs, c'est pour ça que tu n'as pas le droit de manger ». Ce Dieu archaïque qui sacrifierait son fils alors que il a empêché Abraham de sacrifier Isaac quand même. Ce Dieu qui n'a rien à voir avec celui-là, parce que le Dieu de Jésus-Christ est un Dieu d'amour, un Dieu qui dit non à la violence, non à la vengeance. Et cette violence et cette vengeance, ce désir de vengeance, eh bien, se fracasse sur la croix et nous dit que l'amour, malgré tout et contre tout, triomphe. Et il a triomphé. Puisqu'aujourd'hui, encore, nous annonçons cet amour de Dieu qu'il a manifesté en Jésus-Christ, cet amour de Dieu que Jésus-Christ n'a de cesse de clamer, de vivre, de pardonner, de guérir, cet amour qui nous invite à prendre soin du plus petit. Alors, on peut s'interroger en effet, chaque jour, est-ce qu'on est comme Judas, est-ce qu'on est comme Pilate, est-ce qu'on est... On est un peu de tout ça, pas forcément chacun, chacune, on a tous nos défauts. Mais le message, c'est que Dieu nous veut là, il a besoin de nous, il a besoin que nous soyons des humains responsables, que nous soyons, eh bien, à l'écoute de notre monde, à l'écoute des autres, et être capable d'accepter la main tendue, la main que le Christ me tend, la main où il m'invite à participer, eh bien, à améliorer et à essayer de faire croître l'amour dans ce monde. Le Christ qui nous tend la main et qui nous dit qu'il veut que nous soyons tous ensemble unis pour, eh bien, essayer de construire ce monde, ce royaume que Dieu espère, que Dieu désire. Amen.
Thank you.
Et nous chanterons maintenant le cantique 143, les trois premières strophes du cantique 143. Je vous invite à chanter « Ô Jésus, ta croix domine ».
Bonjour à tous. Au nom du Conseil presbytéral et je crois toute l'Assemblée, immense merci à toi. Ça nous fait très très plaisir. Donc Florence Blondon est une jeune retraitée, ça ne se voit pas, est une vieille copine de Béatrice, comme Béatrice nous l'a dit dimanche dernier, et également est présidente de l'Amicale des pasteurs à la retraite. Et si vous reprenez notre dernière feuille sur Jésus et sur... la fondation de l'oratoire et les actions d'entraide, sachez que nous finançons maintenant, nous aidons à financer une partie de l'association de l'Amicale des pasteurs à la retraite. Je te laisse en dire quelques mots.
Oui, alors déjà merci pour l'invitation et merci pour l'aide de la fondation de l'oratoire à l'Amicale des pasteurs à la retraite. Alors c'est une amicale comme... son nom le dit, ça fait un peu désuet, mais bon, finalement, ce qui est vintage aujourd'hui, ça devient très bien. Donc, c'est une association qui a été créée en 1953, ou 54, enfin bon, il y a un certain temps quand même, et pour, en fait, non pas aider financièrement directement les pasteurs, parce que pour ça, il y a la fondation pour les pasteurs, mais en réalité pour faire que les pasteurs continuent à avoir des activités intellectuelles, spirituelles, de rencontres. Donc l'association organise des pastorales régionales, des pastorales, alors il y a des endroits, c'est même des pastorales d'une ville, à Nîmes, il y a beaucoup de pasteurs retraités par exemple, donc et font que les pasteurs se rencontrent. Il y a un bulletin qui est envoyé 4 fois par an et qui s'appelle « Hier et aujourd'hui », avec des réflexions, des comptes rendus des pastorales. Et puis, il y a un grand événement tous les 3 ans, qui est une pastorale nationale. Et à cette pastorale nationale, il y a environ 180 personnes. Voilà, il y a des invités. Et il y a des pasteurs avec leurs conjoints ou seuls. Il y a des veuves ou des veufs de pasteurs qui sont là aussi. Et c'est vraiment un grand rassemblement qui a lieu au Lazaret à 7 et qui dure 4 jours. Et c'est vraiment, je pense que pour les pasteurs à la retraite, c'est très important. Et il y a quand même beaucoup de pasteurs à la retraite qui sont plus très jeunes, alors, et qui sont très contents de venir. Voilà. Et ça permet d'être en relation. Il y a quand même quelques pasteurs à la retraite qui sont très isolés. Il y en a qui ont une vie de famille, il y en a qui ont tout ce qu'il faut, mais il y en a beaucoup qui n'ont plus ça. Et puis je pense que on essaye de plus en plus de leur proposer, et ils se proposent d'ailleurs tout seuls, hein, des activités plus intellectuelles à travers des recensions de livres, voire même des films, enfin je veux dire, qu'il y ait une activité aussi culturelle qui est très importante.
Merci pour ces mots sur l'amicale de la retraite. Alors, tu parles du journal.
Oui.
Alors, pour ceux qui ont reçu la newsletter, je vous en prie, inscrivez-vous à la newsletter du vendredi. Comme le week-end prochain, nous avons Pierre Gisèle qui est parmi nous, samedi et dimanche. Figure-toi que j'ai trouvé sur ton site un article sur les monothéistes de Pierre Gisèle. Donc, tout le monde, les 1800 personnes inscrites à la newsletter, ont donc eu le lien sur le site de l'Amicale des pasteurs. Donc, si tu vois tes statistiques exploser,
c'est parfait.
Voilà, sache qu'on est derrière. Donc, la semaine prochaine, le week-end prochain, Béatrice de retour, Pierre Gisèle, donc le théologien Pierre Gisèle, qui nous vient de Suisse, vient samedi parler de l'interreligieux ou réinterpréter ce que signifie l'interreligieux aujourd'hui, samedi prochain matin au brunch libéral. Vraiment, venez nombreux, ça va être passionnant. Et dimanche, après le culte, il nous présente son dernier ouvrage disponible à la librairie, Les monothéistes. Également, tu as parlé du Cluedo tout à l'heure, donc Qui a tué Jésus. Alors, ça m'a rappelé les éditions du Foyer de l'âme. Il y avait un livre fabuleux que vous pouvez encore trouver sur le Bon Coin, enfin en occasion, qui s'appelle qui est une enquête sur Paul et Jésus. Pourquoi Paul n'utilise jamais les paroles de Jésus ? Toi qui es une spécialiste de Paul, ce bouquin est génial. Et...
Oui, voilà, tout à fait.
Bravo, il est remarquable ce livre. Je me demande si d'ailleurs ce n'est pas toi qui me l'avais conseillé dans une étude biblique. Pourquoi je dis ça ? Parce que les éditions du Foyer de l'âme, vous savez, réexistent maintenant depuis un an. Ils viennent de sortir 3 nouveaux ouvrages que vous trouverez à la librairie. Il y avait Spinoza, Rousseau, etc., et Dieu. Et ils viennent de sortir Sigmund Freud et Dieu, Walt Whitman et Dieu, et le dernier, Marcel Proust et Dieu. Donc vraiment, c'est une initiative du Foyer de l'âme qui est remarquable. Donc n'hésitez pas à la librairie, ils sont tous là. Vous savez aussi que Dominique Imbert, ex-irlandaise, c'est son nom de jeune fille, Dominique Imbert, à chaque année à Pâques, nous partageons avec le Foyer de l'âme le jeudi saint, le vendredi saint et le dimanche. On le refait cette année. Donc vraiment, n'hésitez pas aussi, quand vous viendrez au Foyer de l'âme, leur dire que vous avez lu leur bouquin, parce que ça leur fera très plaisir. Voilà. Dernière chose, ça n'est pas un poisson d'avril. Mardi 1er avril, Béatrice vous propose 4 activités. Culte d'intercession avec Seine le mardi midi, suivi d'un déjeuner avec elle, suivi d'un partage biblique sur les villes. Cette année, enfin ce mardi, c'est les villes et le sacré. Et mardi soir, avec son mari Jean-Pierre Clairaut et France Farago, un théophile sur le thème de plaisir et ascétisme. Ça n'est pas plaisir ou ascétisme, c'est plaisir et ascétisme. Donc, allez comprendre, allez réfléchir sur ce sujet-là. Je vous remercie encore à toi. Grand merci d'être là. Ça permet aussi à Béatrice d'être un peu en famille. Et c'est une très bonne chose. Merci à tous et bon dimanche. C'est le moment de l'offrande, le don joyeux. Je propose, en accord avec le trésorier, puisque nous avons parlé de l'ami Pat, que tu repartes avec la quête. Pour l'ami Pat, si ça vous va à tous, je vous en prie, pensez au pasteur à la retraite. Merci à vous.
il est bon et c'est notre joie de remercier Dieu, de le remercier pour la vie qu'il nous donne, cette vie terrestre et cette vie éternelle, de le remercier pour l'eau, l'eau de notre baptême, pour le pain et le vin de son repas. Il est bon et c'est notre joie d'être les invités, les amis, les frères, les sœurs de Jésus-Christ, de reconnaître et de recevoir les signes de son amour, de sa mort et de sa résurrection, de sa promesse et de son royaume dans ce pain et dans ce vin. Il est bon et c'est notre joie d'attendre la venue du souffle saint afin qu'en ce pain et en ce vin, nous ayons communion les uns avec les autres et que nous recevions chacune, chacun, tous ensemble, la vie qui vient de Dieu. Il est bon de chanter la grâce et la fidélité du Seigneur. C'est le mot, je prie. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il va être livré, prend du pain. Et après, il le rompt. Et il dit, « C'est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il fait de même avec la coupe après le dîner, en disant, ok, excusez-moi. « Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang. » Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain, toutes les fois que vous buvez cette coupe, c'est la mort du Seigneur que vous annoncez jusqu'à ce qu'il vienne. Nous prions. Dieu de sagesse, Dieu de vie, en ce jour où nous nous rassemblons autour de cette table du Christ pour faire mémoire de ses paroles, de ses gestes, de sa mort, de sa résurrection. Nous nous tournons vers toi. Apprends-nous ta sagesse, non pas celle qui enferme, mais celle qui éclaire, celle qui nous rend humbles sans nous éteindre, celle qui nous donne de discerner ce qui construit et ce qui disperse, celle qui sait que l'amour vaut plus que tous les pouvoirs, que la vérité libère et que la paix est un chemin à cultiver jour après jour. Notre Dieu, apprends-nous la fraternité, non seulement celle des mots, mais aussi celle des gestes, celle qui sait écouter, accueillir, relever, celle qui fait de l'autre un visage à aimer et non une ombre à ignorer, celle qui nous garde de l'indifférence, du repli, celle qui nous ouvre à la joie du partage et à la confiance donnée. Apprends-nous la sobriété heureuse, non celle de la privation, mais celle de la liberté, celle qui nous détache du superflu pour nous attacher à l'essentiel, celle qui nous fait grandir en nous la gratitude plutôt que le manque, celle qui nous rappelle que la véritable richesse est dans les liens que nous tissons, dans le pain que nous rompons ensemble et dans cet amour qui circule et qui fait vivre. Seigneur, C'est toi qui nous rassemble et qui nous invite par ton esprit. Renouvelle notre foi afin que ce pain et ce vin soient le signe de la présence de ton Fils parmi nous. Fais toute chose nouvelle dans nos cœurs pour que nous portions à notre tour cette nouveauté dans le monde. Et donne-nous de prier ensemble d'une seule voix avec toutes celles, tous ceux qui te cherchent avec ces mots que Jésus nous enseigne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Voici donc le repas que nos mains ont préparé, mais c'est le Seigneur qui maintenant nous invite. Voici cette table que nous avons dressée, mais c'est le Seigneur qui nous accueille. Et voici cette joie que nous désirons tant, mais qu'il nous offre jour après jour. Nous sommes donc toutes et tous invités, et je vais vous inviter à former un cercle autour de cette table. Vous êtes tous invités à participer au cercle. Si quelquefois vous ne désirez pas communier, vous pouvez tout de même vous joindre à nous. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus, le crucifié. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus, le ressuscité. Nous te remercions pour ton Fils Jésus-Christ. Il est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera jamais dans la nuit. Il est le cep et nous sommes ses sarments. Fais que nous demeurions attachés à lui et que nous portions de nombreux fruits. Il est le pain de vie. Comble notre faim de toi. Amen. Tu peux prendre ça pour la bénédiction. Attends, je commence après. À la croix, l'amour a tendu les bras. À Pâques, la mort a baissé les bras. Toute existence se reçoit de cette offrande où la mort est abolie par l'amour. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble pas. Allez sur un chemin de vie, confiant dans cette parole. Le Seigneur vous accompagne, il vous garde dans son amour. Amen. »
Thank you. perdu.